Du pain sur la table.
Un dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le troisième dimanche de Carême. À ce moment-là, des gens viennent rapporter à Jésus ce qui est arrivé à des gens de Galilée, dont Pilate a mêlé leur sang à celui des animaux qu'ils offraient en sacrifice. Il leur répond :
Pensez-vous que ces Galiléens ont souffert cela parce qu'ils étaient pécheurs davantage que tous les Galiléens ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas tous, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes à Siloé, sur laquelle la tour est tombée et elle les a tuées. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme cela.
Il disait encore cette parabole.
Quelqu'un avait un figuier planté dans son vignoble. Il vient y chercher du fruit et n'en trouve pas. Il dit au vigneron, « Voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas, coupe-le. Pourquoi épuise-t-il le sol ?» Mais celui-ci répond et lui dit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Voilà une question souvent posée, la souffrance est-elle une punition de Dieu? Devant une maladie, un accident, une épreuve, pouvons-nous faire un lien avec le péché? Quel lien Jésus fait-il entre les malheurs du monde et le péché? Ce passage de l'Évangile parle aussi de conversion. De quel genre de conversion s'agit-il?
À la fin du chapitre 12, Luc présente une série de textes qui préparent notre récit. 3 petites paraboles qui nous parlent de la nécessité d'être vigilant, car le Maître va venir et demander des comptes.
Vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir.
Puis Luc regroupe des sentences qui invitent chacun à se situer par rapport à Jésus.
Esprit pervers, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel et le temps présent. Comment ne savez-vous pas le reconnaître? C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé.
Même si le message de Jésus est un message de paix, ce message va provoquer la division dans la mesure où chacun doit se situer, pour ou contre Jésus. Jésus reprend-il ici le message des prophètes comme Jean le Baptiste? On sait que ceux-ci annonçaient l'intervention imminente de Dieu comme juge et justicier. Les pécheurs allaient être punis. Il semble que la discussion que Jésus engage va apporter des nuances et des nuances importantes par rapport à ce jugement et à cette intervention de Dieu.
À ce moment-là, des gens viennent rapporter à Jésus ce qui est arrivé à des gens de Galilée, dont Pilate a mêlé leur sang à celui des animaux qu'ils offraient en sacrifice.
Eh bien, Jésus semble aller au-devant de la question qui se cache derrière cette information. Et la question est celle-ci, ces Galiléens ont-ils été punis pour leurs péchés? C'est une mentalité courante à l'époque que de voir dans les épreuves de la vie des punitions de Dieu. Et si ce malheur a été permis par Dieu pour punir les gens de leurs péchés, on pourrait alors en conclure que les autres personnes qui n'ont pas été tuées sont des gens justes aux yeux de Dieu. À son tour, Jésus apporte d'ailleurs un autre fait.
Ou bien ces 18 personnes à Siloé, sur laquelle la tour est tombée, et elle les a tuées. Pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les habitants de Jérusalem?
Ces deux événements ne sont pas confirmés par d'autres écrivains de l'époque, mais ils ne sont pas invraisemblables. Nous savons en effet que Pilate, le préfet romain de Judée, avait la réputation d'être très dur et violent avec les Juifs rebelles et surtout à l'égard des Zélotes. L'histoire rapporte plusieurs interventions sanglantes de Pilate à Jérusalem. Jésus s'est donc servi de ces deux faits vécus, connus de la population. Mais quelle est sa réponse?
Non, je vous le dis, ces personnes n'étaient pas plus coupables. Mais si vous ne vous convertissez pas tous, vous périrez tous de même.
La réponse peut nous paraître un peu obscure et ambiguë. Jésus semble pourtant affirmer qu'il n'y a pas de lien direct entre telle épreuve et telle faute. Dieu n'est pas plus un comptable qu'un juge. C'est un père qui n'a que l'unique préoccupation de donner la vie et une vie en abondance. Nous avons une confirmation de cette pensée de Jésus dans le récit évangélique de Jean. Les apôtres interrogent Jésus à propos d'un aveugle de naissance.
Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Jésus répond, ni lui ni ses parents. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui.
Ni lui ni ses parents. Alors comment comprendre ce lien que nous faisons entre le malheur qui nous arrive et notre péché? Peut-être que cela vient de notre enfance. En effet, dans notre enfance, on nous a dit, si tu fais ça, tu seras puni, si tu fais ça, le bon Dieu te punira. Jésus, lui, refuse de faire un lien entre le péché et la maladie ou la mort. Mais il nous dit aussi, ne pensez pas que vous êtes correct, que vous êtes droit, juste, parce que votre vie est sans épreuve, qu'elle est sans maladie, sans accident. Ne pensez pas que Dieu vous récompense parce que tout vous réussit mieux qu'à d'autres. Dieu est en effet différent de celui que nous imaginons. Dieu n'est pas un gendarme punisseur ni un juge sévère, et il n'est pas plus un distributeur de récompenses qui dirait « puisque tu as été obéissant, je t'éviterai les accidents ». Et Jésus ajoute « si votre Dieu est un Dieu que vous servez par peur ou par intérêt, alors votre vie véritable est en danger car vous n'êtes pas dans l'amour ». C'est ce que dira la première lettre de Jean. De crainte, il n'y en a pas dans l'amour. Celui qui regarde Dieu comme un juge tout-puissant, un juge qui manierait la carotte et le bâton, ne connaît pas véritablement Dieu. Il trahit même le visage de Dieu. Dieu ne joue pas aux marionnettes avec nous. Dieu nous a créés responsables de notre liberté. Dieu nous offre la vie, mais il nous appartient de l'accueillir, de la faire grandir, ou au contraire, de la détruire. Et Dieu ne peut rien si nous nous détruisons volontairement. Dieu nous a créés par amour et pour l'amour. Mais si nous n'ouvrons pas vraiment notre cœur à son amour, eh bien nous ne vivons pas vraiment de sa vie. Si nous ne connaissons pas Dieu comme notre Père, nous ne pouvons pas être avec lui en vrai lien d'amour. Si nous ne vivons pas à l'unisson de cet amour divin, alors nous sommes déjà spirituellement comme morts. Comme le dira la première lettre de Jean, qui n'aime pas demeure dans la mort.
Si vous ne vous convertissez pas tous, vous périrez tous de même.
Au début de son ministère, Jésus insiste beaucoup sur l'urgence de la conversion. L'évangile de Marc le souligne dès le premier chapitre. Il note d'abord la prédication du prophète Jean le Baptiste.
Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés.
Et il semble bien que Jésus semble poursuivre la prédication amorcée par Jean.
Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. »
Se convertir, dans la langue juive, signifie changer de direction. Alors en quoi les compatriotes de Jésus ont-ils besoin de changer? On peut le déceler à travers ces invectives, les invectives de Jésus, contre ceux qui ne se sont pas convertis.
Alors il se mit à invectiver contre les villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Bethsaïda, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que sous le sac et la cendre, elles se seraient converties. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités avec moins de rigueur que vous.
Tyr et Sidon sont des villes païennes, et Jean et Jésus semblent dire qu'elles se seraient converties, comme l'a fait d'ailleurs la ville païenne de Ninive à la prédication de Jonas. Jésus dira aussi qu'on viendra de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, prendre place à la table de Dieu, et que des Juifs seront laissés dehors. Le récit évangélique fait suivre ces directives d'une prière de Jésus où il dit son action de grâce pour ceux qui se sont convertis. « Je te bénis, Père, parce que ton mystère caché aux sages et aux savants est révélé aux tout petits. » Ainsi ce sont des petits et des humbles, et aussi des païens, qui acceptent de changer leur façon de regarder Dieu et de se comporter avec lui. Pourquoi ? Parce que le Dieu de Jésus est celui qui se rencontre dans la gratuité. Les gens qui se pensent bons et justes et corrects veulent mériter de rencontrer Dieu par leurs efforts et leurs bonnes actions. J'aurais bien gagné mon ciel, comme on dit. Eh bien, cela se trompe. La seule dette que nous avons envers Dieu est une dette d'amour. Rien d'autre que l'amour ne peut acquitter cette dette. Et l'amour doit être d'abord accueilli de celui qui est la source de l'amour. L'amour ne peut être accueilli que comme un don, voire même comme un pardon. Celui qui n'accueille pas comme un pauvre, celui-là ferme son cœur à l'amour du Père, il marche vers la mort spirituelle. Les païens, eux, puisqu'ils ne peuvent s'appuyer sur aucun titre pour revendiquer l'amour de Dieu, vont être tout accueil. Pierre, après Pâques, fera l'expérience que Dieu donne son esprit à la famille d'un païen qui s'appelle Corneille.
Dieu a donné à ces gens le même don qu'à nous autres. Dieu a donné aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la vie.
Notons cette insistance. Dieu a donné à ces gens un don. La traduction œcuménique de la Bible dit « Dieu a fait un don gracieux ». Dieu a donné la conversion, et cette conversion conduit à vivre en plénitude. Elle est une communion à l'Esprit de Dieu qui embrase notre cœur du feu de son amour. On comprend alors la hâte ardente de Jésus de pouvoir communiquer ce feu, cette vie, ce bonheur. On comprend aussi sa souffrance devant le refus des bien-pensants, des gens suffisants. Origène rapporte une belle parole de Jésus.
« Qui est près de moi est près du feu. Qui est loin de moi est loin du royaume. »
Jésus souffre de voir refuser l'harmonie de la communion divine et de la fraternité humaine. Il souffre de voir qu'on s'éloigne de la source de la vie. Pour le décrire, il emploie la comparaison d'une lampe.
La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre !
Et cependant, Jésus ne condamne pas pour autant l'être humain qui se ferme ou qui s'éloigne de la source de la lumière. Au contraire, il veut se faire proche de lui, il veut se faire son ami.
Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de lui pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient, « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. »
Eh bien, c'est lorsqu'il fait bon accueil aux pécheurs que Jésus dévoile la joie de Dieu aux retrouvailles de la brebis perdue. Le Dieu de Jésus est comme un père débordant de tendresse, un père qui saute au cou de son fils retrouvé. Jésus l'a fortement expérimenté dans sa rencontre avec Zachée. « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, dit-il, car lui aussi est un fils d'Abraham. » En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Écoutons ce que dit Jacques Duquesne dans son livre « Le Dieu de Jésus », où il tente de traduire ce qui est l'essentiel du message de Jésus de Nazareth.
Le Dieu annoncé par Jésus, incarné par Jésus, n'a pas de compte à régler avec les hommes, mais il nourrit pour eux un projet d'amour. Ce projet peut se définir en quelques mots. C'est qu'il participe à sa vie éternellement. Si un seul de ces hommes échappe à ce projet, ne participe pas en fin de compte éternellement à la vie divine, c'est un échec pour le Dieu de Jésus.
Si vous ne vous convertissez pas tous, vous périrez tous de même. Cet appel à la conversion, dans le cadre que nous venons d'évoquer, ne doit pas être entendu comme une menace de malheur, mais comme une invitation pressante à prendre conscience que rien ne peut remplacer le bonheur d'une existence vécue en communion avec Dieu. Les catastrophes pourront être certes des avertissements, pour nous inviter à prendre conscience de ce qui est l'essentiel de la vie. Un malheureux accident d'autobus ou d'avion, un séisme, une éruption volcanique qui tue des dizaines ou parfois même des milliers et des milliers de personnes, ces faits tragiques peuvent provoquer une interrogation profonde sur le sens de la vie. Alors pour certains, ce sera l'occasion de vivre des solidarités et de partager avec les plus démunis. Pour d'autres, moins nombreux heureusement, ce sera de profiter de l'opportunité pour s'enrichir ou pour voler son semblable. Pour celui ou celle qui veut bien écouter la leçon de tels événements, l'interrogation pourra être fructueuse. Quelles sont donc les vraies valeurs de notre fragile existence terrestre? Qu'est-ce qui fait l'essentiel d'une vie humaine? Il y a quelque temps à la télévision, le chanteur Dan Bigra confessait que c'est alors qu'il croyait être atteint d'un mal incurable qu'il a pris conscience de ce qui comptait vraiment dans sa vie. Et ce qui comptait, ce n'était pas ses succès, ses chansons, sa musique, c'était son enfant. Lui, il m'aime sans condition, confiait-il, jamais auparavant je n'avais fait cette expérience. Expérience de l'amour véritable, gratuit et sans condition. Cette expérience, n'est-ce pas la conversion à laquelle Jésus nous appelle?
C'est un feu que je suis venu apporter sur terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Quelqu'un avait un figuier planté dans son vignoble. Il vient y chercher du fruit et n'en trouve pas.
Découragé et déçu devant l'état de fait, cet homme propose au vigneron de couper le figuier, mais celui-ci lui répond.
Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir.
Ces images de vignes et de figuiers, nous savons qu'elles sont fréquentes dans la Bible, elles veulent illustrer que Dieu prend soin d'Israël, comme le vigneron prend soin de sa vigne. Rappelons ce beau texte du prophète Isaïe au chapitre 5.
Que je chante à mon ami le chant de son amour pour sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la bêcha, l'épierra, il planta du muscat. Au milieu, il bâtit une tour, il creusa une cuve. Il en espérait du raisin, mais elle lui donna du verjus. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez juges, je vous prie, entre ma vigne et moi. Que pouvais-je faire pour ma vigne que je n'ai fait? J'en espérais du raisin. Pourquoi seulement du verjus?
Malgré toute l'attention du maître de la vigne, les plants ne donnaient pas de bons fruits. L'envoyé de Dieu, Jésus, pourra-t-il réussir à changer les cœurs afin qu'ils produisent de bons fruits? Il n'est pas le premier prophète à constater l'égarement de son peuple. Voici comment oser le formuler.
Quand Israël était enfant, je l'aimais. Et de l'Égypte, j'appelais mon fils. Mais plus je les appelais, plus ils s'écartaient de moi. Ils ont sacrifié au Baal et fait fumer des offrandes devant les idoles.
Jésus constate que sa mission n'aura pas plus de résultats. En Galilée, les pharisiens et les hérodiens se sont ligués contre son message.
Les pharisiens, avec les hérodiens, tinrent conseil contre lui pour le faire périr.
Et les foules ont été déçues parce qu'il n'a pas accepté de devenir le messie politique qu'on attendait.
Jésus donc, sachant qu'ils allaient venir et l'enlever afin de le faire roi, se retira encore sur la montagne, lui tout seul.
Et l'Évangile rapportera sa plainte sur Jérusalem parce qu'elle n'a pas saisi sa dernière chance de retrouver le vrai Dieu de l'Alliance.
Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu.
Mais l'intervention du vigneron va créer encore un délai, un temps pour la conversion, un temps pour accueillir le pardon, la grâce toute gratuite de Dieu. Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier. Cette année, est-ce que ce ne serait pas l'an de grâce dont Jésus parlait déjà au tout début de son ministère à la synagogue de Nazareth?
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer l'an de grâce du Seigneur Dieu.
Durant tout son ministère, le Christ essaie de toucher le cœur de ses auditeurs afin de les ouvrir à l'amour et à la lumière divine. Comme il le vit lui-même, il sait que celui qui vit une amitié forte avec Dieu, celui-là sera fécondé par cet amour et en portera les fruits, fruits de joie, de paix, de bonté, de confiance. Comme un père ou une mère peuvent souffrir de voir son enfant, leur enfant, refuser leur amour ou gâcher sa vie, Dieu souffre de nous voir passer à côté de son amour, de nous voir refuser la paternité qu'il nous offre. C'est la conscience forte de cette souffrance du Père qui explique l'urgence pressante de l'appel que Jésus nous lance à nous convertir. Pourtant Dieu, aussi pressé et impatient soit-il de nous voir accepter son amour, de nous voir vivre vraiment et être heureux, pourtant Dieu accorde encore et toujours un dernier délai à son espérance. Il ne désespère jamais de nous voir répondre à sa prière. Jésus, le temps de l'histoire, celui de notre vie, est toujours comme l'an de grâce, un temps d'amour pour une libération, un temps de conversion, une année sainte, à condition que nous sachions l'accueillir. La violence de l'amour en Dieu est aussi violence de son espérance. C'est peut-être ce que la Bible traduit lorsqu'elle parle d'un Dieu qui est un Dieu jaloux. C'est aussi ce que l'apôtre Paul écrit à ses chers Corinthiens dans la deuxième lettre au chapitre 11.
J'éprouve à votre égard autant de jalousie que Dieu. Je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Mais j'ai peur que vos pensées ne se corrompent en s'écartant de la simplicité envers le Christ.
J'éprouve à votre égard autant de jalousie que Dieu. Oui, Dieu est jaloux. Mais Dieu s'est patienté, d'une patience ardente. Dieu a hâte d'établir une communion intime avec chacun, avec chacune de ceux qu'il aime depuis toujours. Dieu sera sans doute le dernier à désespérer de nous. Olivier Clément rapporte et commente ce propos d'un moine du mont Athos, un moine orthodoxe, à qui on demandait s'il y avait quelqu'un en enfer, et ce moine répond.
Soyez sûr que, tant qu'il y aura quelqu'un en enfer, le Christ y sera avec lui.
Oui, le Christ y sera avec lui et qu'il attendra avec un amour jaloux que cette personne puisse sortir de son mal, de ce dans quoi elle s'est elle-même enfermée. Oui, Dieu reste à la porte de chaque cœur, même des cœurs qui lui demeurent fermés, et s'il le faut, il attendra toute l'éternité que ses cœurs s'ouvrent à lui. Voilà le message du figuier. Certitude de l'inépuisable miséricorde de Dieu. Mais il nous faut toujours mettre cette miséricorde en parallèle avec le message de Jésus. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. Un message qui nous rappelle avec l'urgence de l'amour que Dieu ne peut que respecter la liberté de l'être humain. Dieu ne peut rien contre celui qui refuse son amour. La justice de Dieu, d'une certaine manière, c'est le respect de notre liberté et des conséquences de notre liberté. Parce qu'il est amour, Dieu est désarmé devant le refus de son amour. Terminons avec cette belle pensée de Maurice Zendel qui traduit magnifiquement cet immense respect de Dieu, cet immense respect de son amour.
Toutes les tendresses du monde ne peuvent rien contre un cœur fermé. Toutes les tendresses du monde peuvent transfigurer une vie qui s'ouvre. Mais si elles se refusent, l'amour est impuissant. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous pouvez également vous abonner au feuillet ou aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs de cet abonnement. Vous pouvez également nous rejoindre sur Internet, notre site www.relaismontroyal.com, Relais Mont-Royal en un seul mot et sans tiret.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs, chères auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.